Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Hébreux 13, 8. Lettre circulaire. Décembre 2009. Je vous salue tous cordialement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ avec l'écriture d'Ésaïe 46, 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Dans ce verset, Dieu nous fait savoir que même avant le commencement, il connaissait tout ce qui allait se passer dans le cours du temps, jusqu'à la fin. Non seulement cela, il avait conçu un plan qu'il réalise jusque dans les plus petits détails. Je l'ai dit, et je le réaliserai. Je l'ai conçu, et je l'exécuterai. Ésaïe 46, 11. À partir du chapitre 40 et plus loin, le plan du salut est annoncé. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle, élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle, élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici, le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Ésaïe 40, 6 à 10. En effet, il est venu personnellement, et il nous a apporté le salut. Au commencement du temps, Dieu que nul homme n'a vu. Jean 1, 18, 1 Timothée 1, 17, qui seul possède l'immortalité. 1 Timothée 6, 16, sorti de sa plénitude éternelle d'esprit, de lumière, de vie, et marcha dans le jardin d'Éden dans une forme visible. Dans 1 Roi 22, 13 à 24, et 2 Chroniques 18, 12 à 22, le prophète Michée rendit ce témoignage. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. 2 Chroniques 18, 18. Il donna ensuite le compte-rendu de la conversation qui eut lieu là-bas. Depuis le commencement, Dieu était environné d'anges, auxquels il s'était adressé déjà dans Genèse 1, 26 à 28, disant, « Faisons l'homme ». Les anges de Dieu criaient de joie lorsque le Seigneur créait la terre. Job 38, 1 à 7. Quand les hommes devinrent orgueilleux et construisirent une tour dont le sommet devait toucher le ciel, l'Éternel s'adressant aux anges, dit, « Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue, les uns des autres. » Genèse 11, 7. Dans Genèse 18, nous lisons que le Seigneur était accompagné de deux anges lorsqu'il visita son serviteur Abraham. Tous les trois, le Seigneur et les deux anges, furent décrits comme des hommes. Verset 2. Abraham lava les pieds de ses visiteurs célestes, donna l'ordre d'apprêter un veau, de faire des gâteaux, et il leur servit le repas. Ensuite, les deux anges allèrent à Sodome. Chapitre 19. Mais le Seigneur resta avec Abraham. 18, 22. Des anges, tels que Gabriel, sont décrits comme des hommes dans les saintes Écritures. Daniel 8, 15, 9, 21. Dans Luc chapitre 1, l'ange Gabriel apparut, se tenant à droite de l'autel des parfums, et parla à Zacharie. Il visita aussi Marie et annonça la naissance de notre Sauveur. Versets 26 à 38. Dans Ésaïe 6, nous lisons la puissante expérience qu'eut le prophète. Et il rendit ce témoignage. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Versets 1 à 3. J'entendis la voix du Seigneur, disant, « Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Ésaïe 6, 8. Par cette description, nous voyons avec évidence de qui le Seigneur a parlé lorsqu'il dit « nous ». Le Seigneur a toujours été environné de ses anges et des armées célestes, même lors de l'introduction de la loi, comme il en ressort clairement dans les Écritures telles que, Actes 7, 38 et 53. Galates 3, 19, Hébreux 2, 2. C'est ainsi que le Seigneur Dieu pouvait dire déjà au commencement, « Faisons l'homme à notre image. » Depuis le commencement, Dieu a parlé aux anges et par des anges, il a parlé aux hommes et par des hommes. Lors de la naissance du Rédempteur, les anges ont chanté, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. » Luc 2, 14. Selon Matthieu 4, 11. Les anges vinrent auprès du Seigneur pour le servir après la tentation. Deux anges rendirent témoignage de la résurrection du Seigneur. Luc 24, 4. Deux anges prédirent le retour du Seigneur ressuscité. Acte 1, 9 à 11. Il fut aussi permis au prophète Ézéchiel de voir le Seigneur Dieu sur le trône dans la forme d'un homme, et il le décrit avec détail. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue, en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante, qui l'entourait, c'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face, et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Ézéchiel 1, 26 et 28. Dieu se révèle à son peuple et à son Église, ou en allemand, son assemblée. Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et, sur la terre, il t'a fait voir son grand feu, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Sache donc en ce jour, et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Deutéronome 4, 35, 36 et 39. Dieu s'est toujours révélé exclusivement à son peuple et cela en tant que l'unique, l'Éternel, mais pour les autres nations, il reste dévoilé. Ses manifestations, tout au long de l'Ancien Testament pendant la période de 4000 ans, d'Adam jusqu'à Christ, furent multiples. Cependant, c'est seulement au commencement de la nouvelle alliance qu'il se révéla lui-même en tant que Père aux cieux et dans le Fils sur la terre. C'est ainsi qu'aucun des prophètes n'avait parlé d'un Père au ciel ou adressé une prière à un Père au ciel. Toutefois, il y a plusieurs promesses en relation avec la naissance du Fils, et aussi de notre adoption en tant que fils et fille de Dieu. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. 2 Samuel 7, 14, 1 Chronique 17, 13. Je déclarerai le décret, le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Ou, en allemand, conçu ou procréé. Demande-moi, et je te donnerai les païens. En allemand, les nations, les populations. Pour ton héritage, et les parties les plus éloignées de la terre pour ta possession. Psaume 2, 7 et 8. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Psaume 2, 11 et 12. Mais c'est toi qui m'as tiré du sein qui m'a porté. Tu m'as donné confiance sur les mamelles de ma mère. C'est à toi que je fus remis dès la matrice. Tu es mon Dieu, dès le ventre de ma mère. Psaume 22, 10 et 11. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Psaume 89, 27 et 28. C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici, la Vierge concevra et elle enfantera un fils, et appellera son nom Emmanuel. Ésaïe 7, 14. Dans Ésaïe 9, 5, il nous est dit qu'il est le Fils. Car un enfant nous est né, un fils, nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Notre prédestination. Selon qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et sans reproche devant lui dans l'amour. Éphésiens 1, 4. Nous ayant prédestinés à être par l'adoption ses enfants par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Verset 5. En qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon les richesses de sa grâce. Verset 7. Que l'accent soit de nouveau mis sur ceci. Pendant la période de l'Ancien Testament, les prophètes et le peuple d'Israël ont connu Dieu uniquement en tant que le seul Seigneur, Yahweh, celui qui se révéla lui-même à eux. La désignation de Seigneur Dieu, Elohim Yahweh, est écrite plus de 6000 fois dans l'Ancien Testament et ce, toujours au singulier, pas une seule fois au pluriel. Dieu lui-même donna à son peuple de l'Alliance la confession de foi. Écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Deutéronome 6, 4 à 9. Pareillement, nous trouvons déjà tout au long de l'Ancien Testament toutes les promesses en relation avec le Sauveur et le plan de la rédemption. Ce n'est que lors de la réalisation de son propre plan de rédemption, que Dieu se révéla en tant que Père dans le ciel, et dans son Fils engendré, en allemand, son Fils unique, sur la terre. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Luc 1, 35. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Luc 2, 11. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jean 20, 17. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Romains 8, 29. Cependant le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter, et au lieu qu'on leur disait, « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira, « Fils du Dieu vivant ». Osée 2, 1. Les deux promesses concernant le Fils de Dieu et les fils de Dieu vont de pair. C'est pour cela que Paul écrivit, selon qu'il le dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée, et là où on leur disait, « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Romains 9, 25 et 26. « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » 2 Corinthiens 6, 18. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. 1 Pierre 2, 10. Jésus-Christ est Seigneur. Lorsque Dieu, Elohim, se révélait dans l'Ancien Testament, il s'agissait alors du Seigneur, Yahweh, cela nous l'avons compris. Dans le Nouveau Testament, il se révéla dans le Fils. Les Saintes Écritures nous expliquent également qui est le Fils. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Luc 1, 43. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Luc 1, 46b, 47. Ainsi, dès le commencement même, il est Seigneur. En tant que Fils, il fut engendré. Ou, en allemand, il fut procréé, il fut conçu. Et naquit. Après sa résurrection, dans l'évangile de Jean, il ne fut plus appelé que « Seigneur ». Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Jean 20, 2. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » Jean 20, 13. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur, et qu'il lui avait dit ces choses. Jean 20, 18. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jean 20, 20. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Jean 20, 25. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jean 20, 28. C'est pourquoi je veux vous faire comprendre que nul homme peut dire que Jésus est le Seigneur, sinon par l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 12, 3. En tant que Seigneur, en tant que je suis, il fut avant Abraham. En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Jean 8, 58. En tant que fils, il témoigna. Je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde, et je vais au Père. Jean 16, 27b et 28. et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Jean 17, 8b. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jean 16, 30b. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Jean 17, 11b. Toutes les promesses, et les ombres ou images symboliques, de l'Ancien Testament, devinrent, et sont encore en train de devenir des réalités dans le cours du Nouveau Testament. Le Rédempteur devait être fils d'Abraham et fils de David. Matthieu 1, 1. Il devait être fils de l'homme et fils de Dieu. Luc 1, 35. Il devait être l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean 1, 29. Il devait être le médiateur de la nouvelle alliance. Hébreux 9, 15. Il devait être l'avocat. 1 Jean 2, 1-2. Il devait être le souverain sacrificateur. Hébreux 2, 17. En tant que le seul fils engendré, ou en allemand, le fils unique, il est le premier-né entre plusieurs frères. Romains 8, 29, Galates 3, 26, Hébreux 2, 11. Nous devons aussi considérer comment notre Rédempteur est présenté en tant qu'homme. En réponse à la question si, il était le fils de Dieu, Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. Matthieu 26, 64. Non pas comme une deuxième personne de Dieu, mais en tant que Fils de l'homme, il est à la droite de Dieu. Cette désignation est reprise plus de 70 fois dans les quatre évangiles, mais pas une seule fois depuis l'épître aux Romains jusqu'à celle de Jude. À partir de Romains chapitre 1, il est décrit comme fils de Dieu, en relation avec l'œuvre accomplie de la rédemption et avec l'Église. C'est ainsi qu'il n'est pas fait mention du « fils de Dieu » dans Jean 3, 13, mais du « fils de l'homme ». Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le fils de l'homme qui est dans le ciel. Nous lisons dans Matthieu 25, 31, « Lorsque le fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges. » Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Dans Matthieu 25, 1 à 13, il vient en tant qu'époux, en allemand, le fiancé, le futur marié. Et les vierges qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle des noces. Il est très important que nous lisions la parole de Dieu avec exactitude, que nous la placions au bon endroit, et que nous en recevions la révélation par le Saint-Esprit. Nous voyons les trois manifestations principales de Dieu en tant que Père au ciel, dans le Fils sur la terre et dans l'Église par le Saint-Esprit. Ensuite, nous voyons les différents domaines de fonction en tant que Rédempteur dans sa forme humaine. Il peut être tout en tous, Fils de Dieu, Fils de l'homme, Fils de David, Fils d'Abraham, Agneau de Dieu, et aussi le Lion de la tribu de Juda. Il est médiateur et avocat, il est roi, souverain sacrificateur, prophète. Que notre Seigneur, notre Dieu, soit exalté. Lui qui nous a accordé l'adoption afin de devenir des fils par son seul fils engendré. En allemand, loué soit notre Seigneur et Dieu, qui nous a donné l'établissement de la filiation, en son fils unique. Galates 4, 4 à 7. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu, et lors de l'achèvement nous serons transformés à l'image du Fils de Dieu. 1 Jean 3, 1 à 3, et autres. Le Rédempteur est devenu homme, comme nous, afin qu'à la première résurrection nous puissions devenir semblables à lui. La chrétienté a été égarée depuis le premier concile de Nicée, en 325 après Jésus-Christ. Avant cette période, comme dans le judaïsme depuis toujours, la croyance était en un seul Dieu qui ne tolère aucun autre Dieu à ses côtés. Exode 20, etc. Les pères de l'Église, qui venaient du paganisme, haïssaient tous ensemble les Juifs, et ont ainsi façonné une divinité trinitaire selon le modèle païen. Dans le credo de Nicée, la chose suivante est dite sur Jésus-Christ. Le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré non pas créé. En allemand, Fils unique de Dieu, né du Père avant la terre entière, Dieu provenant de Dieu, lumière provenant de la lumière, vrai Dieu provenant du vrai Dieu. Il n'existe absolument pas de témoignage d'un tel fils dans la Bible, lequel serait prétendument engendré et né du Père dans les cieux avant le commencement du temps. En allemand, la Bible ne témoigne vraiment pas d'un tel fils, qui serait né au ciel avant la nuit des temps. Ceci est la doctrine de l'Antichrist, et elle est contraire à 1 Jean 4, 2 et 3. Le Fils de Dieu fut engendré, ou en allemand conçu ou procréé, par le Saint-Esprit. Il est le Oint, le Christ, et il est né à Bethléem. Dans tout l'Ancien Testament, il était le Seigneur, Yahweh. Et dans le Nouveau Testament, nous le connaissons en tant que Fils, Yahshua, Jésus. La doctrine de la Trinité, des soi-disant trois personnes éternelles, ne se trouve nulle part dans la Bible. Elle fut le premier dogme érigé comme colonne de l'Église dans l'Empire romain, et a été adoptée depuis lors par toutes les autres églises chrétiennes dans le monde entier. La parole a été faite chair. Il est bien connu que l'évangile de Jean commence avec les paroles suivantes. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le terme, la parole, fut traduit du mot grec, logos. Cependant, le mot hébreu, et, dabar, et a trois significations principales. Parler ou dire. Ordonner ou commander. Rapporter ou rendre compte. C'est ainsi qu'au commencement était celui qui parla. Et cela fut fait, il ordonna et la chose exista. C'est alors que le compte-rendu de la création put être écrit. C'est ainsi que les écritures suivantes font toujours référence au seul et unique Créateur, qui existe et qui est, à la fois, la parole, celui qui parle, et celui qui agit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, 1. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Psaume 33, 6. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Psaume 33, 9. Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Psaume 102, 26. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean 1, 3. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Hébreux 1, 10. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, et l'honneur, et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent, et qu'elles ont été créées. Apocalypse 4, 11. Le mot, dabar, qui a été traduit en logos, est le Seigneur lui-même qui a été fait chair, et a habité parmi nous. Amen. Esprit de vérité, ou esprit de tromperie. Je vous écris, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. 1 Jean 2, 21. Le temps où le jugement doit commencer dans la maison de Dieu est arrivé. Dieu sépare la lumière des ténèbres, et la vérité de l'erreur dans son Église. Les falsifications, les tromperies, et les fausses inspirations sont au-delà de toute mesure. Nous allons, premièrement, considérer la falsification, qui a été formulée en rapport avec l'envoi, avant la seconde venue de Christ. Qu'est-ce que la voix qui retentit de la lumière surnaturelle a-t-elle vraiment dit à Frère Branham le 11 juin 1933? Dans son témoignage du 10 février 1960, à San Juan, Frère Branham a dit ceci. Beaucoup de gens se tenaient un peu partout sur le bord de la rivière, et aussi des photographes de journaux. Et de nouveau j'entendis, « Lève les yeux !» Et comme je levai les yeux, arriva cette lumière qui descendait. Les gens se sont mis à s'évanouir, à tomber, et une voix retentit, ébranlant tous les alentours de l'endroit, disant, « Comme Jean-Baptiste fut envoyé pour être le précurseur de la première venue de Christ, le message qui t'a été confié sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Pas que je serai le précurseur, mais que le message serait le précurseur. » Dans au moins 16 prédications différentes, Frère Branham lui-même avait insisté comme quoi le message précédera la seconde venue de Christ. Dans la citation reprise ci-dessus, il mit particulièrement l'accent sur le fait que, non pas lui, mais le message, serait le précurseur. C'est pour cela que la phrase sortit de nouveau de ses lèvres, « Pas que je serai le précurseur, mais que le message serait le précurseur. » Dans la version falsifiée, il est dit, comme Jean-Baptiste fut envoyé pour être le précurseur de la première venue du Seigneur, c'est ainsi que tu es envoyé pour précéder sa seconde venue. Ici on ne se réfère plus au message. Mais toute l'attention est placée uniquement sur la personne de Frère Branham, ce qui amène à la prétendue conclusion que tout aurait pris fin avec son ministère. La version falsifiée n'est pas seulement écrite dans le livre, les Actes du prophète, mais elle a aussi été gravée sur la porte de la maison qui fut construite pour frère Branham, à Tucson. Celle-ci n'a été toutefois achevée qu'après son décès. Même sur sa pierre tombale, en forme de pyramide, il y a une inscription gravée de cette version falsifiée. Je ne pouvais pas, avec bonne conscience, traduire le livre, les Actes du prophète, principalement à cause de cette citation et d'autres incohérences dans le texte. Cependant, d'autres personnes se sont chargées d'accomplir cette tâche, et ainsi le livre a été publié dans plusieurs langues. Dans toutes les déclarations authentiques de frère Branham, il en existe au moins 16, nous trouvons le mot « message ». Et la partie où Dieu a mis vraiment l'importance, manque dans les falsifications qui sont mentionnées ci-haut. Combien de fois frère Branham n'a-t-il pas insisté sur le fait qu'il avait suffi d'un seul mot avec Ève, par lequel l'ennemi réussit à la séduire? L'omission du mot le plus important, « message », induisit à la falsification de la vraie signification. Et ceci est d'autant plus fatal que toutes les autres falsifications et les égarements tirent leur origine de là. Il est même écrit dans le livre dont il est question. Certains croient que la voix avait dit « Ton message précédera sa venue ». Bien plus, nous ne croyons pas seulement cela, nous en avons des preuves irréfutables. On doit poser sérieusement la question suivante. Qu'est-ce qui est vrai? Ce que la voix surnaturelle a dit du ciel et ce que frère Branham a répété avec une précision exceptionnelle? Ou ce qui a été écrit dans un livre, sur le devant d'une porte et sur la pierre tombale en forme de pyramide, et qui a été par la suite répandu partout dans le monde? Qu'est-ce qui est valide? Ce que Dieu a promis. Ce que le Seigneur a dit le 11 juin 1933. Ce que frère Branham a confirmé au moins 16 fois. Ce que le Seigneur a dit le 2 avril 1962. Ce que frère Branham a confirmé le 3 décembre 1962. Ce que le Seigneur a dit le 19 septembre 1976. Ce qui se fait effectivement dans le monde entier, depuis 1966, jusqu'à ce jour. L'allégation que frère Branham aurait été lui-même le précurseur de la venue de Christ, et que, par cela, tout serait réglé, n'est tout simplement que tromperie et un mensonge intentionnel. Au cours de ses 7 voyages dans le monde, comme il les nommait, il ne visita que 12 pays. Et dans 9 d'entre eux il ne tint que des réunions d'évangélisation. Après l'ouverture des sceaux en mars 1963, sa préoccupation était que ses prédications touchant la doctrine, soient enregistrées sur bande, c'est ainsi que la nourriture spirituelle fut mise en réserve selon ce que le Seigneur lui avait recommandé de faire, à moi également, et comme il en parla dans sa prédication du 1er avril 1962. Et comme aussi cela me fut ordonné par le Seigneur le 2 avril 1962. Ce n'est qu'après son décès que le message divin fut apporté jusqu'aux extrémités de la terre, et est en train d'être servi au peuple de Dieu comme nourriture spirituelle bien préparée sur la table du Seigneur. Nous voyons clairement que ce n'est pas frère Branham mais c'est le message qui lui a été confié qui précède la seconde venue de Christ. Il a accompli sa tâche en tant que prophète promis, et apporta le message utile à la restitution de toutes choses dans l'Église. Depuis son départ, 44 ans sont passés. Et le Seigneur n'est pas encore revenu. Cependant, le pur message biblique est encore apporté, et cela continuera ainsi jusqu'à ce que l'époux vienne prendre son épouse. En allemand, jusqu'à ce que le fiancé, le futur marié, vienne prendre sa fiancée, sa future mariée. Une fois frère Branham demanda, « Qu'est-ce que le message ?» Il donna immédiatement la réponse, « Le message c'est le retour à la parole, le retour à la doctrine des apôtres. Le retour au commencement. Celui qui porte en lui la véracité de Christ n'apportera jamais, et ne tolérera jamais une falsification. C'est pourquoi rien ne peut être ajouté à la parole écrite, promise, et révélée. Tout ce que frère Branham a enseigné est scripturaire. Et il n'y a donc plus qu'à placer cela correctement dans les Écritures. Il a répété si souvent l'avertissement écrit dans Apocalypse 22, que nul ne doit ajouter ou retrancher quelque chose de la parole. Les nombreuses fausses doctrines sont encore plus incompréhensibles lorsqu'elles apparaissent dans le milieu de ceux qui se réfèrent à frère Branham. Les frères qui sont sous une mauvaise influence ne savent-ils pas qu'ils sont sous la malédiction lorsqu'ils propagent un tout autre évangile? Galates 1, 6 à 9. L'envoi d'une puissance d'égarement est possible seulement là où la vérité est rejetée, et la Bible mise littéralement de côté, sans aucun respect. 2 Timothée 4, etc. Chaque enseignement biblique est clair, vrai, et a un sens. Chaque fausse doctrine est absurde, et contraire au bon sens. Maintenant, pour ceux qui sont appelés à sortir, la lumière est en train d'être séparée des ténèbres. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité, et il conduit dans la parole de vérité. Jean 16, 13. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. 1 Pierre 1, 25. Ceci doit être dit en toute clarté, comme Jean-Baptiste ainsi que tous les hommes de Dieu ont achevé leur ministère, ainsi en a-t-il aussi été avec frère Branham. Il exécuta à 100%, avec l'aide du Seigneur, tout ce qui était en rapport avec son mandat. Ce qui est fait maintenant avec sa personne n'est qu'un culte de l'homme et cela ne fait que nourrir des fausses espérances. Nous n'avons pas besoin de nouveaux livres sur l'histoire de sa vie, ni des frères qui coupent en petits morceaux les habits de frère Branham pour les distribuer, en Pologne ou ailleurs. Nous n'avons pas non plus besoin de quelqu'un qui prétend que frère Branham, en novembre 1965, pria sur une pile de tissus, de nappes de table, et de draps de lit. C'est tout de même étrange que celui-ci ne s'en soit souvenu qu'en janvier 2000, soit plus de 30 ans après. Il emporta ces morceaux de tissu en Haïti, et cela créa un grand enthousiasme. Tout ceci est l'œuvre de l'esprit de séduction. Où est-il donc écrit qu'après le départ de Paul, ses habits et ses mouchoirs furent distribués? C'est le même esprit d'idolâtrie que Dieu a dû reprocher si souvent à son peuple d'Israël. Ce n'est qu'un culte rendu à l'homme, des hérésies et des fausses doctrines comme jamais auparavant. On n'aurait jamais su que Pierre était marié, si le Seigneur n'avait pas guéri sa belle-mère de la fièvre. Où est donc la différence entre tous les objets qui appartenaient à frère Branham, et qui ont été transformés en reliques, et les reliques qui sont vénérées dans tous les endroits de pèlerinage de l'Église catholique romaine? Qu'est-ce que de tels objets personnels ayant appartenu à frère Branham ont à voir avec le message divin, avec l'Évangile éternel de Jésus-Christ qui est maintenant en train d'être prêché comme témoignage à toutes les nations? Absolument rien. C'est de l'idolâtrie. Nous ne pouvons pas et ne voulons pas aller dans les détails de tous ces enseignements non scripturaires tels que le Seigneur serait déjà revenu, sept hommes spéciaux apparaîtront, le huitième messager serait là, Apocalypse chapitre 10 est déjà accompli, ou de toutes les doctrines de la parousie et des tonnerres. Néanmoins, encore une fois, il doit être dit très clairement, ce n'est que lorsqu'il y a une promesse dans les saintes écritures qu'il y aura accomplissement. Tout ce qui n'est pas biblique est anti-biblique, et ce qui n'est pas vrai est mensonge. La vraie foi des véritables enfants de Dieu est ancrée dans la vraie parole. L'Église épouse, en allemand, l'assemblée fiancée, la congrégation nuptiale, sera à 100% en harmonie avec la parole car elle est une partie de l'époux, en allemand, le fiancé, le futur marié, en qui la parole a été faite chair. L'épouse doit s'unir à l'époux et non pas à l'ami de l'époux, en allemand. La fiancée doit s'unir au fiancé, et non à l'ami du fiancé. L'ami se réjouit grandement à cause de la voix de l'époux, en allemand, le fiancé ou futur marié. Mais l'épouse l'entend, en allemand, la fiancée, la future mariée, l'entend. Jean 3, 29. Il faut que Dieu s'unisse à nous, et nous à Dieu. Apocalypse 19, 7. C'est douloureux, pourtant il faut le dire, l'hérésie la plus grave vient de Jeffersonville. Elle prétend que la voix du septième ange, dans Apocalypse 10, 7, serait la voix de Dieu. Par conséquent, tous devraient entendre la voix originale de frère Branham. Et c'est pour cette raison que l'appellation « publication de la parole parlée » « Spoken Word Publications » fut changée en « enregistrement de la voix de Dieu » « Voice of God Recordings ». C'est assez invraisemblable. Lorsqu'une prédication est traduite dans d'autres langues, il est recommandé que l'original de la voix audible soit aussi entendu, car elle est considérée comme étant la voix directe de Dieu. Voici. Un groupe écoute la traduction d'un tel frère, le deuxième groupe la traduction d'un autre frère, et le troisième celle d'un autre frère, toujours avec la voix de frère Branham en arrière-plan. Les différents groupes n'ont aucune communion entre eux et ils aboutissent à des conclusions complètement différentes, tout en écoutant leur traduction. On pourrait se demander comment est-ce possible s'ils écoutent tous la voix de Dieu. Paul se demanderait encore aujourd'hui, qui vous a ensorcelé? Comment se fait-il que ses frères ne se rendent même pas compte que Apocalypse 10, 7, ne parle pas du tout de la voix de Dieu, mais plutôt de la voix du septième ange de trompette? Aucun ange au ciel ni aucun messager de Dieu sur la terre n'a le droit de changer le mystère d'Apocalypse 10 en mystère, avec S, au pluriel. Ce fut le mandat de frère Branham, en tant que messager du dernier âge de l'Église, de révéler tous les mystères appartenant au conseil de Dieu, par son ministère d'enseignement. Mais lorsque la voix du septième ange de trompette se fait entendre, c'est le mystère de Dieu qui s'accomplit. Amen. Sous la conduite du Saint-Esprit, lors de sa première prédication le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre fit référence au jour terrible du Seigneur. Malachie 4, 5, en tant que jour grand et glorieux du Seigneur. Acte 2, 20. Paul fit aussi le lien avec le grand jour en relation avec l'Église, et le décrit en tant que jour glorieux du retour de Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, 8, 2 Corinthiens 1, 4, Philippiens 1, 6 à 11. Paul s'adressant aux véritables croyants dit, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier, au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Philippiens 2, 16. Cependant, ces remarques sur le glorieux jour de Christ n'ont pas rendu nulle la signification du jour terrible du Seigneur lors duquel la terre sera embrasée. 2 Pierre 3, 10. Pareillement, frère Branham n'a pas annulé, par son ministère, l'accomplissement d'Apocalypse 10. Encore une fois, nous voyons qu'il est de la plus grande importance de placer correctement toutes choses, particulièrement lorsque la prophétie biblique peut avoir une signification et un accomplissement double. Alors il n'y a aucune contradiction, seulement de l'harmonie. Toutefois, seuls les élus discernent cela car ils ne croient que ce que disent les saintes Écritures. Ainsi ils ne peuvent être séduits, tous les autres croiront de toute façon ce qu'ils veulent. J'ai une responsabilité directe devant Dieu pour l'Église épouse. En allemand, l'assemblée fiancée, la congrégation nuptiale. En ce temps, laquelle doit être une épouse parole pure? En allemand, une pure fiancée de la parole, une pure future mariée de la parole. Les saintes Écritures nous montrent précisément l'endroit où les sept messages aux sept églises sont écrits, où les sept anges de trompette sont placés. Et quand les sept anges avec les fléaux de la colère de Dieu exécuteront leur mission, etc. Répartition claire telle qu'exposée dans le livre d'Apocalypse. Dans Apocalypse 1, nous voyons le Rédempteur en tant que fils de l'homme marchant au milieu des sept chandeliers d'or. Dans sa main droite, il a sept étoiles. De sa bouche sort une épée aiguë à deux tranchants et son visage est comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Au chapitre 2 et 3, nous lisons le ainsi dit le Seigneur adressé aux sept anges des sept églises. À la fin de chaque message, une promesse est donnée à chaque fois au vainqueur. Au chapitre 4, Jean vit le Seigneur sur le trône, lequel était environné d'un arc-en-ciel. Il vit la mer de verre, les quatre êtres vivants, les 24 vieillards, et il entendit ces paroles, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient. » Au chapitre 5, Jean vit dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, le livre scellé de sept sceaux. Il entendit un des vieillards dire, « Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, a vaincu, pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. » Et après cela, il vit un agneau, comme immolé, qui vint prendre le livre pour en ouvrir les sceaux. Au chapitre 6, versets 1 à 8, il nous est relaté ce qui a lieu pendant la période concernant les quatre premiers sceaux. Les quatre premiers sceaux nous montrent l'Antichrist dans ses quatre étapes de développement tout au long des âges de l'Église, jusqu'à la fin. Au cinquième sceau, versets 9 à 11, nous voyons les martyrs juifs dont les âmes sont sous l'autel et qui réclament la vengeance. Ils doivent attendre, jusqu'à ce que leurs compagnons de service et leurs frères soient mis à mort, comme eux, pendant leur temps de persécution. Avec le sixième sceau, versets 12 à 17, nous sommes informés de manière très détaillée sur ce qui se passera pendant la grande tribulation et la persécution après l'enlèvement. Ensuite, le soleil deviendra noir comme un sac de crin, la lune entière deviendra comme du sang, et les étoiles du ciel tomberont sur la terre. Apocalypse 6, 12. C'est ainsi que c'est déjà écrit dans Joël 2, 31, Joël 3, 15, et Actes 2, 20. Afin que tous puissent comprendre et placer en harmonie la conformité des événements selon la prophétie biblique, nous reprenons ici ce que notre Seigneur lui-même a dit, pour que l'on sache quand cela aura lieu. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Matthieu 24, 29. Le sixième sceau est clairement l'introduction dans le jour du Seigneur, le jour de la colère. C'est ainsi que cela est écrit, « Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Apocalypse 6, 12 à 17. Frère Branham voulait prêcher sur les sept trompettes. Mais il lui fut dit que cela ne concernait pas l'Église car elle s'applique à la période de temps impartie à Israël. À proprement parler, tout ce qui concerne les jugements des trompettes et les fléaux qui s'abattent pendant le sixième et septième sceau, sont des événements qui auront lieu après l'enlèvement jusqu'à la proclamation du règne de 1000 ans du roi. Au chapitre 7, du verset 1 à 8 a lieu le scellement des 144 000 d'entre les 12 tribus d'Israël. Du verset 9 à 17, nous voyons que Dieu est également fidèle envers ceux qui lui appartiennent mais qui n'étaient pas prêts pour prendre part à l'enlèvement. Ils ont tenu ferme dans la foi et ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Même après l'enlèvement, le sang parle encore pour les rachetés qui devront passer au travers de la grande tribulation. Ceux qui ont été pris dans l'enlèvement sont assis avec Christ, et règnent avec lui. Apocalypse 3, 21, et 5, 10. Ceux qui ont eu à passer par la grande tribulation sont devant le trône, servant Dieu nuit et jour dans son temple. Celui qui prétend que déjà maintenant le sang n'est plus sur le trône de miséricorde, est grandement dans l'erreur. Au chapitre 8, lors de l'ouverture du septième sceau, on nous fait connaître ce qu'il en est des sept anges de trompette. Nous devons prêter attention à ceci, il y a sept anges de l'Église. Apocalypse 1 à 3. Il y a sept anges de trompette. Apocalypse 8 à 11. Il y a sept anges avec les sept fléaux de la colère. Chapitre 15 et 16. Pourquoi frère Branham n'a lu que le premier verset d'Apocalypse 8, lorsqu'il parla sur le septième sceau le 24 mars 1963, reste un mystère. Ce qui eut lieu pendant la demi-heure de silence dans le ciel n'est pas écrit mais ce qui arrive en effet sur la terre pendant le septième sceau est déclaré en toute clarté à partir du verset 2, « Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. » Ensuite, nous avons un compte rendu détaillé de ce qui se passe sur la terre pendant ce temps, et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Verset 6. Remarquez, lors de l'ouverture du septième sceau, il n'est pas question de ce qui avait été dit aux sept anges de l'Église mais de ce qui a lieu sur la terre pendant les jugements des sept trompettes. Verset 7. Le premier ange sonna de la trompette. Verset 8 et 9. Le second ange sonna de la trompette. Verset 10 et 11. Le troisième ange sonna de la trompette. Versets 12 et 13, le quatrième ange sonna de la trompette. Chapitre 9, 1-12, le cinquième ange sonna de la trompette. Chapitre 9, 13 et 21, le sixième ange sonna de la trompette. Tout ce qui est annoncé dans les chapitres 8 et 9 s'accomplira à 100% tel que c'est écrit dans la parole de Dieu. Au dixième chapitre, le Seigneur descend en tant qu'ange de l'Alliance et en tant que propriétaire légitime, il pose son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Comme au chapitre 4, il est environné de l'arc-en-ciel. Ensuite, il rugit comme le lion de la tribu de Juda car cela concerne Israël. Jérémie 25, 30b, Osée 11, 10, Joël 3, 16, Amos 1, 2. Et ce n'est qu'à ce moment-là que les sept tonnerres feront entendre leur voix. Chacune des doctrines des tonnerres est une fantaisie religieuse, une interprétation particulière que Dieu lui-même a interdit. 2 Pierre 1, 20. Jusqu'à ce jour, aucun des anges de trompette n'a encore sonné de sa trompette. Le 28 février 1963, Il n'était pas question des sept voix mais des sept puissants coups de tonnerre successifs, lesquels firent trembler toute la région. La raison de ces coups de tonnerre était d'attirer l'attention de frère Branham en vue de la révélation des sept sceaux, comme il lui avait été dit de la nuée surnaturelle. Ce sont sept anges qui apparurent dans la nuée, non pas l'église épouse. En allemand, l'assemblée fiancée, la congrégation nuptiale. Après qu'il ait été dit à Jean de sceller ce qu'ont dit les sept tonnerres, l'ange leva sa main droite au ciel et jura. En comparant le serment d'Apocalypse 10:6 à celui de Daniel 12:7-8, on voit qu'à partir de ce moment il ne reste plus que 3 ans et demi jusqu'à la proclamation du règne de 1000 ans. Ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Verset 7. Dans Apocalypse 10:7, nous avons l'annonce de ce qui va se passer lorsque le septième ange sonne de la trompette, à savoir qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Au chapitre 11, à partir du verset 15, nous voyons l'accomplissement, le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Dans la lettre circulaire de septembre, nous avions écrit au sujet des mystères du royaume de Dieu ainsi que sur le mystère de Dieu. Ce mystère c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, Dieu manifesté dans la chair. 1 Timothée 3, 16. L'annonce qui est faite dans Apocalypse 10, 8, 11, il faut que tu prophétises de nouveau. Conduit au chapitre 11, là où il est parlé du ministère des deux prophètes qui prophétiseront à Jérusalem pendant 3 ans et demi. Verset 3. Au chapitre 15 et 16, il est question des jugements par des fléaux avec sept plaies particulières. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, sept anges, qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Apocalypse 15, 1. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux sept anges, allez, et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. Apocalypse 16, 1. Verset 2, le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Verset 3, le second versa sa coupe dans la mer. Verset 4, le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Verset 8, le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Verset 10, le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Verset 12, le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Verset 17, le septième versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait. Il ne peut y avoir meilleure ou plus précise description des événements. Tout ce qui concerne l'Église ou Israël ainsi que tout ce qui s'accomplira en général jusqu'à la fin, nous a été transmis dans la parole et ordonné de manière claire et compréhensible. Je suis Dieu. Je dis, mes arrêts subsisteront. Ésaïe 46, 9 et 10. Tout ce qui fait partie du conseil, arrêt, de Dieu s'accomplira. Le meilleur est encore à venir. Dieu couronnera majestueusement l'œuvre de la rédemption, tout comme il couronna son œuvre de création. Tous les prophètes eurent leur temps et leur place, comme aussi Jean-Baptiste qui fut la transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Luc 16, 16. Toutefois, la rédemption promise fut accomplie par le Seigneur lui-même. Au cours de la période du Nouveau Testament, le Seigneur a eu également ses instruments, en particulier les sept anges des sept églises. Spécialement depuis la Réformation, il a recommencé à œuvrer pour terminer dans notre temps au travers du plus grand ministère. Que dit l'Écriture au sujet de ce qui doit encore arriver? Qu'il exécutera. La chose suivante fut prédite pour les derniers temps, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. 2 Timothée 3, 13. Mais Dieu avait aussi promis ceci. Je ferai de la droiture une règle, et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Ésaïe 28, 17. Pareillement, cette écriture est devenue vraie pour les véritables ministres de la parole. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. 2 Timothée 3, 10. Cependant, tout à la fin, le Seigneur prendra lui-même son œuvre en main, car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Peratsim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Ésaïe 28, 21. Car le Seigneur, pas un prophète, exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Romains 9, 28. Nous sommes avertis par ces paroles, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Jacques 5, 7. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs, et il vous enverra une abondante pluie, il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Zacharie 10, 1. Le 18 mai 1962, frère Branham parla du rassemblement du petit groupe et en ce temps-là il pensa que, dans un mois environ elle serait enlevée. Personne ne sait exactement combien de temps durera l'action surnaturelle de Dieu au milieu de l'Église épouse. En allemand, l'assemblée fiancée, la congrégation nuptiale. Cependant, tous ceux qui prendront part à l'enlèvement l'expérimenteront et il ne s'agira pas que d'un petit groupe aux États-Unis mais de tous les membres de l'épouse dans tous les pays de la terre. Aucun prophète ne pouvait être dans tous les endroits en même temps. Dieu seul est omniprésent et comme nous l'avons lu, il achèvera son œuvre d'une manière glorieuse. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, 6, etc. C'est l'esprit de séduction et de mensonge qui fait que tous les faux enseignements et les interprétations soient considérés comme crédibles. Les gens sont trompés et sont nourris par de fausses espérances en prétendant que le prophète aura le ministère final sous une tente. Ils parlent de ce qui arriva dans le passé, de ce qui pourrait arriver dans le futur, et entre-temps, ils passent à côté de ce que Dieu est en train de faire maintenant. Toute chose ne devait-elle pas être restaurée et ramenée dans les conditions originales par le ministère promis? Matthieu 17, 11, Marc 9, 12. Et Christ doit rester au ciel jusqu'à la restitution de tout ce que Dieu a annoncé par la bouche de tous ses saints prophètes. Acte 3, 17 à 23. Ceci ne s'accomplira que dans l'Église épouse, en allemand, l'assemblée fiancée, la congrégation nuptiale. Et la dernière action de Dieu également n'aura lieu que parmi ceux qui ont été appelés à sortir, et qui sont sortis de toute confusion, même de cette dernière. L'Église épouse, en allemand, l'assemblée fiancée, la congrégation nuptiale. Et la pure semence parole, tous les autres sont des variétés de semences. Je sais de quoi je parle. Et dans ce cas, ce que j'écris. Je le fais sous le mandat direct, reçu de Dieu, en tant que témoin oculaire des choses que Dieu a faites dans notre temps et qu'il fait encore aujourd'hui. Tous les frères qui apparaissent maintenant sur la scène, qui n'ont pas expérimenté personnellement le ministère extraordinaire dans les années 50 et 60, qui n'étaient pas encore nés, ni nés de nouveau en ce temps-là, ne peuvent vraiment pas être des témoins. De quoi veulent-ils témoigner? Jean écrivit, « Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. » 1 Jean 1, 1. À vous, âme de l'épouse, en allemand, âme de la fiancée, âme de la future mariée. Soyez certaine qu'aucun mensonge n'a son origine dans la vérité. Ne soyez pas naïve. Sondez quotidiennement les Écritures pour voir si les choses sont ainsi. Acte 17, 11. Prenez au sérieux l'avertissement du Seigneur, que personne ne vous séduise. Éphésiens 5, 6. Vous rendez capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Hébreux 13, 21. Les traductions de la Bible. En considération des aspects différents dans la traduction des Bibles, dans divers pays et langues, il s'impose donc quelques clarifications. Par exemple, dans la Bible allemande, nous avons 19 fois le terme « retour de Christ », ce qui n'existe pas dans les autres langues. Cependant, il est précisément écrit « Je reviendrai », ce qui différencie de toutes les autres venues à celles promises dans Jean 14, 1 à 3. Lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Il n'y a qu'un seul retour de Christ, celui que nous attendons. Et il y a d'autres venues telles que celles décrites dans Zacharie 14, lorsqu'il descendra en tant que Seigneur Dieu sur la montagne des Oliviers. Dans Matthieu 6, 13, dans la prière du Seigneur, il devrait en effet être écrit selon le texte araméen, et conduis-nous afin que nous ne tombions pas dans la tentation. Parce que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Jacques 1, 13. Et la doxologie, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. N'existe pas dans la version originale du Nouveau Testament, mais elle fut ajoutée plus tard. Pareillement, dans le texte original de Matthieu 28, 19, il est écrit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant en mon nom. Onto onomatimu. La formule les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est le résultat de l'idée de la Trinité et fut insérée au cours du temps, après le Concile de Nicée. Dans Éphésiens 3, 14 et 15, il devrait être écrit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tout ce qui est nommé dans les cieux et sur la terre tire la paternité. La traduction, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Est fausse et cela provient seulement de l'époque où l'Église inventa sa confession de foi uniforme. Les versets 14 et 15 vont de pair. Paul n'avait certainement pas fléchi les genoux devant une famille dans les cieux, laquelle n'existe pas du tout, mais devant le Père, lequel est à l'origine et à la paternité, l'auteur, de tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. C'est en particulier sur la base de ce verset biblique falsifié, que l'Église de l'Orient et de l'Occident a fondé la doctrine trinitaire de trois personnes éternelles. En plus de ceci, vint la modification dans les versions latines, plus tard dans la version du roi Jacques, et dans d'autres langues, de l'ajout trinitaire dans 1 Jean 5, 7, car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole, et l'Esprit Saint. Et ces trois sont un. Cela est aussi une falsification des pères de l'Église trinitaire remontant au XVe siècle. Je lis de la même traduction anglaise qu'utilisait frère Branham, en bas de page il est écrit, d'une manière générale, il convient de dire que le verset 7, ne se trouve pas dans le texte original. Ce verset n'existe dans aucune Bible en allemand et cela cause souvent des problèmes lorsque quelqu'un doit traduire d'une langue à une autre. Dans 1 Jean 4, 2, il doit être écrit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. Car cela se réfère à la première venue de Christ. Dans 2 Jean, au verset 7, il devrait être écrit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ vient en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Ce verset fait clairement référence au retour de Christ. Que le Seigneur, notre Dieu, nous soit miséricordieux afin que nous ne voyons pas seulement les lettres des différentes traductions mais que nous soyons conduits par le Saint-Esprit dans toute la vérité. Tous ceux qui font partie de l'Église épouse de Jésus-Christ, en allemand, l'assemblée fiancée ou la congrégation nuptiale de Jésus-Christ, sont en effet unis dans la parole de Dieu sous le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance. Et ils sont sous la conduite directe du Saint-Esprit, lequel conduit dans toute la vérité. Pour une meilleure compréhension, celui qui veut comprendre 1 Thessaloniciens 4, 16, de la bonne manière, devrait lire premièrement ce qui est écrit dans Psaume 47, 6. Dieu monte au milieu des cris de triomphe, ou en allemand, des cris de réjouissance, d'exultation. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Nous trouvons les mêmes paroles dans 1 Thessaloniciens 4, 16, aussitôt que son cri de commandement, signal donné, en allemand cri de jubilation, d'exultation, se fait entendre, la trompette de Dieu sonne, alors le Seigneur lui-même descend. Après l'accomplissement de son œuvre de rédemption, le victorieux du calvaire monta au ciel et avec un cri, en allemand cri de jubilation, d'exultation, il prit avec lui les saints ressuscités de l'Ancien Testament. Matthieu 27, 45 à 53. Ce fut en ce moment-là que l'écriture suivante fut accomplie. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Psaume 24, 7 et 8. Les versets suivants sont aussi en relation avec ce contexte. Le Seigneur donna la parole, le cri victorieux. Édition allemande. En allemand, le Seigneur a lancé un cri de victoire. Psaume 68, 12 à. Tu es monté dans les lieux élevés, tu as emmené la captivité captive, tu as reçu des dons pour les hommes. Psaume 68, 18 à. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Éphésiens 4, 8. Le Seigneur, le Rédempteur, descendra avec le même cri de victoire, le cri de commandement tout-puissant, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, la première résurrection. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement, la seconde résurrection. Jean 5, 28 et 29, Apocalypse 20, 11 à 15. Lors de son ascension, les anges dirent, « Ce Jésus, qui a été élevé au ciel du milieu de vous, viendra, reviendra, de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Acte 1, 11. Alors les portes en perles s'ouvriront et nous entrerons dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Son épouse, en allemand sa fiancée, sa future mariée, se prépare maintenant. Amen. Le grand pourquoi? Des frères qui sont tombés sous une mauvaise influence, et qui ont des difficultés avec mon appel et mon mandat, se demandent. Pourquoi est-ce que frère Branham n'a pas mentionné ton nom publiquement? En regardant à la prophétie biblique, je ne demande pas, pourquoi est-ce que le Seigneur Dieu, dans Ésaïe 40, 3, n'avait pas mentionné le nom, mais seulement celui qui devait préparer le chemin? Cela suffisait que le Seigneur ait dit, la voix de celui qui crie dans le désert. Également dans Malachie 3, il est dit, voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Le nom du messager n'a pas été mentionné. Dans la promesse la plus importante pour notre temps, en l'occurrence Malachie 4, 5 et 6, le nom n'a pas été mentionné, non plus dans Matthieu 17, 11, et Marc 9, 12. Le Seigneur Dieu a seulement dit, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Il rétablira toutes choses. » Imaginez seulement qu'il ait été écrit, « Et son nom sera William Branham. » Alors tous, même les évangélistes mondialement connus, aurait été obligé de croire en lui. Cependant, Dieu ne force personne car la vraie foi est un don direct de Dieu, une révélation qui est liée à la promesse et à son accomplissement. Celui qui ne veut pas, ou ne peut pas croire, ne croira pas non plus même si quelqu'un ressuscitait des morts, c'est ce que notre Seigneur a dit. Luc 16, 29 à 31. Imaginez donc, si le passage de Matthieu 24, 45 à 47, ne parlez pas seulement du serviteur fidèle et prudent, qui distribuera la nourriture spirituelle à tous les gens de la maison, en allemand à l'entièreté des serviteurs, à tout le personnel de la maison. Mais qu'il donnerait aussi son nom. Dans ce cas, tous, auraient été obligés de le croire, même les séducteurs. Lorsqu'il me fut posé la question par Don Bablitz, celui qui était en charge du département d'expédition à Edmonton, si la Bible parlait de mon ministère, comme elle parle de celui de frère Branham. Je rejetai fermement cette idée. Mais dans les 24 heures qui suivirent, Dieu lui-même, donna la réponse. Je témoigne de nouveau que j'entendis la puissante voix du Seigneur ce dimanche matin, le 19 septembre 1976, à Edmonton, au Canada, juste au lever du soleil. Mon serviteur, je t'ai établi pour distribuer, en allemand je t'ai destiné à distribuer, la nourriture selon Matthieu 24. 45 à 47. Je n'avais jamais auparavant réfléchi sur ces versets ni prêché sur cela. Toutefois, les paroles du Seigneur sont aussi vraies que Jean 3, 16. Et ce que le Seigneur dit, reste valable pour toujours. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Jean 13, 20. Le Seigneur ressuscité avait dit aux apôtres, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, Moi aussi je vous envoie. Jean 20, 21. Ce fut la continuité du plan du salut. Paul, dont le nom ne fut pas non plus annoncé à l'avance, reçut un tel mandat au niveau du plan du salut. Il prit même la parole de la prophétie d'Ésaïe 49, 6, et de Matthieu 12, 17 à 21, concernant notre Seigneur et Sauveur, et l'appliqua à lui-même et aux apôtres. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Il dit, « Je t'ai établi pour être la lumière des nations. » En allemand, « Je t'ai fait, lumière pour les nations, ou les païens. » Acte 13, 47. Jusqu'à ce jour, nous annonçons, pour ma part en tous les cas, le même évangile que nous avons appris de lui. 1 Jean 1, 5. Dans approximativement 150 pays que j'ai visités personnellement, des millions de gens l'ont entendu de mes lèvres, et plusieurs louent le Seigneur pour cela. Au commencement du chapitre le plus important de l'Ancien Testament en rapport avec l'histoire du salut, il est écrit « Qui a cru à ce que nous avons fait entendre ?» En allemand, « Qui a accordé foi à notre prédication ?» Et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Ésaïe 53, 1. Seulement celui qui croit à un envoyé de Dieu verra le bras du Seigneur révélé. Pendant que s'accomplit Matthieu 25, seules les vierges sages qui sont réellement remplies du Saint-Esprit, et conduites par l'Esprit reconnaîtront ce qui a été promis dans Matthieu 24 et confirmé par frère Branham. Maintenant, le dernier message est en train d'être annoncé, le dernier appel qui est, un appel au réveil, parce que toutes les vierges s'étaient endormies. En allemand, Weckruf signifie aussi signal d'alarme, avertissement, alerte. Le dernier appel est en connexion avec le sujet principal, voici l'époux vient. En allemand, voici le fiancé vient, le futur époux vient. Sortez à sa rencontre. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables. Et ses voies incompréhensibles. Romains 11, 33. Jusqu'à présent, aucun être humain n'a pu dire à Dieu ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Premièrement, il donne des promesses, ensuite il les accomplit. Quand le temps était arrivé d'accomplir envers le peuple d'Israël la promesse de Genèse 15, 13, Dieu apparut à son serviteur Moïse. Lorsque cette période-là arriva à sa fin, Dieu mandata son serviteur Josué. Lorsqu'Élie acheva son ministère, Élisée continua. Il y a toujours une continuité. Lorsque Jean-Baptiste accomplit sa mission, alors le ministère de notre Seigneur débuta. Lorsque l'œuvre de la rédemption fut accomplie, l'établissement de l'Église du Nouveau Testament eut lieu. Pierre, l'homme de la première heure, fut aussi placé dans le service par le Seigneur. Ensuite vint l'appel spécial de l'apôtre Paul, et par la suite. L'apôtre Jean reçut la révélation finale de Jésus-Christ. Tout ce qui doit s'accomplir jusqu'à la fin des temps lui fut montré. En effet, il a même vu les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Dans les quatre évangiles nous trouvons tout, de la naissance de notre Rédempteur jusqu'à son ascension au ciel. Le livre des Actes des Apôtres nous montre ce qui se passa dans l'Église de Jésus-Christ, ce qui y fut prêché, comment le baptême fut pratiqué, et la manière dont le baptême du Saint-Esprit fut expérimenté. Paul, dans ses épîtres, écrivit tout ce qui est en rapport avec le plan du salut, que ce soit sur le plan d'évangélisation, doctrinal, ou prophétique. Par la grâce de Dieu, depuis 47 ans, j'exécute moi aussi dans le monde entier mon mandat reçu le 2 avril 1962. Deux témoins. D'abord, j'avais eu l'intention de faire une visite à Jeffersonville le deuxième week-end de septembre 2009, après les réunions qui étaient programmées à Atlanta. Je comptais aboutir à un résultat visible pour l'Église de Jésus-Christ. C'est ainsi que je voulais clarifier certains points qui ont conduit à des mauvaises compréhensions, et à de divisions dans le monde entier. Cependant, juste avant mon départ, je fus informé par un courriel venant de Jeffersonville que les deux frères, Billy Paul et Joseph Branham, n'était pas disponible pendant ces jours prévus. Ainsi ma visite était devenue inutile, même si le frère Collins m'avait invité. Deux frères qui m'avaient accompagné dans ce voyage ne se laissèrent pas décourager, et se rendirent d'Atlanta à Jeffersonville, ayant eux aussi le désir, comme d'autres frères dans les décennies passées, de voir l'endroit où frère Branham avait son église. Beaucoup de surprises attendaient nos deux frères, certaines agréables, et d'autres désagréables. La plus agréable fut celle de pouvoir parler avec frère Fred Zottmann, malgré son âge avancé. Lorsqu'il apprit qu'il venait de Krefeld, il voulut immédiatement les voir. Sans que la question lui soit posée, il leur rendit témoignage, sans réserve, qu'il était assis à la même table lors de ma conversation avec frère Branham le 3 décembre 1962. Il pouvait même se souvenir avec assez de détails de ce que frère Branham avait mentionné, en rapport avec l'emmagasinage de la nourriture et sa distribution. Il témoigna également avoir entendu frère Branham dire, « Frère Frank, attends pour la distribution de la nourriture, jusqu'à ce que tu reçoives le reste. » Pour nos deux frères, cela fut une confirmation de mon témoignage. Frère Zottmann leur dit encore qu'il était également présent lors de la conversation que j'avais eue avec frère Branham à Dallas, au Texas, en juin 1958. Il confirma avoir entendu les paroles de frère Branham. Frère Frank, tu retourneras en Allemagne avec ce message. Nos frères furent profondément impressionnés. En ce temps-là, j'avais émigré au Canada, n'ayant aucune intention de retourner en Allemagne. Mon témoignage de la conversation que j'eus avec frère Branham fut publié en avril 1963 par Albert Goethe, avec une photo en première page dans l'édition allemande de Voice of Helling, maison d'édition Merlich-Steinbourg. Je n'ai pas besoin de me défendre, les appels relèvent exclusivement de la responsabilité de Dieu. Et celui qui ne peut pas croire Dieu n'est lui-même ni un appelé, ni un croyant biblique, et moins encore un élu. Ce que Dieu a dit demeure valide pour toute l'éternité. Mon conseil s'accomplira, et je ferai tout mon bon plaisir. Ésaïe 46, 10b. Deux fois 30 années. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Hébreux 12, 3. Depuis 1949, ils se sont écoulés deux fois 30 années. À partir du moment où je fis ma pleine expérience du salut, le jour de la Pentecôte en 1949, dans l'assemblée de la Bâche Strasse à Hambourg, le feu du baptême du Saint-Esprit a commencé à brûler en moi. Et l'amour de Dieu qui a été déversé dans mon âme par le Saint-Esprit me pressait de faire aussi selon la parole du Seigneur. Vous serez mes témoins. Depuis lors, j'ai eu le privilège de servir continuellement mon Sauveur sans interruption. En 1959, j'ai commencé à traduire les prédications de frère Branham. Bien que j'avais une vie professionnelle, et le service pour le Seigneur qui me prenait beaucoup de temps. L'année 1964 fut celle où je fis mon premier voyage missionnaire en Inde. Et sur mon chemin de retour, j'eus l'occasion de visiter Israël. Depuis 1968, j'ai visité régulièrement les pays de l'Europe de l'Est, incluant l'Union soviétique, et en 1979, j'avais déjà prêché dans 86 pays. Pendant les années 70 qui furent très bénies, nous pûmes acheter un terrain couvrant 10 000 mètres carrés, sur lequel nous construisîmes successivement le bâtiment de l'église locale, et les deux bâtiments du centre missionnaire, dans lesquels on trouve les bureaux et les dortoirs des visiteurs. De 1968 à 1978, nous avons pu retransmettre des prédications hebdomadaires de 20 minutes, par la radio Luxembourg. Et par ce moyen nous atteignîmes les frères et sœurs germanophones de l'Est et de l'Ouest de l'Europe. En 1976, des prédicateurs venant de 33 pays, prirent part à notre conférence internationale. En effet, en 1979, je pouvais regarder en arrière à une période bénie s'étendant sur 30 années. Mais alors, toutes les forces de l'enfer se mobilisèrent afin de me détruire, ainsi que l'église locale et l'œuvre missionnaire dans le monde entier. Il est regrettable que pour certaines âmes, ce fut une année tragique dont les conséquences resteront néfastes pour l'éternité. Ce à quoi je n'avais pas pensé, était ce que le Seigneur avait dit, dans Matthieu 16, après ces paroles. Je bâtirai mon église. Notamment, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Maintenant que le Seigneur est en train de bâtir de nouveau son Église sur le fondement original, comme Paul l'a dit, édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, l'ennemi ne voudrait rien de mieux que de la détruire complètement. Cependant, il n'a pas pu, et ne pourra pas réussir à prévaloir contre l'Église. Ceci est la toute dernière période quand Satan se tient directement devant la femme, l'Église. qui enfantera le fils mâle, la troupe des vainqueurs qui sera enlevée vers Dieu. Apocalypse 12. Jésus est, et sera toujours le victorieux, et tous les fils et filles de Dieu vaincront l'accusateur des frères, et expérimenteront la plus grande des promesses, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Jean 14, 1 à 3, Apocalypse 3, 20, etc. En considérant les 30 dernières années, j'ai l'image directe de mon Rédempteur devant les yeux. Il avait environ 30 ans. Luc 3, 23, lorsqu'il commença à exécuter son mandat selon le plan du salut. On lui a, injustement, mis l'étiquette d'être né d'une fornication. Quelqu'un pourrait se demander s'il était vraiment nécessaire que Marie soit fiancée, favorisant ainsi la suspicion que quelque chose avait eu lieu. La chose la plus terrible était que certains pensaient qu'il était de Joseph, et d'autres qu'il était d'un légionnaire romain. C'est seulement les véritables croyants qui sûrent, et qui savent, qui, il était, et qui il est. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En effet, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 16, 16. Tout ce qui provient, et vient de Dieu, est fondé sur la révélation. Cependant, lorsque les scribes devinrent, vexants, et contrariants, ils dirent au Seigneur, « Nous ne sommes pas nés de la fornication. » Il leur rétorqua, « Vous êtes de votre père le diable. » Jean 8, 41 et 44. Il n'y a rien de plus bas que d'accuser un homme de Dieu d'être né, ou de vivre, dans l'adultère. Seuls les scribes et les pharisiens, dont le père est le diable, font cela. David pouvait être accusé d'adultère, mais pas Abraham, Moïse, ou moi. C'est blessant d'être calomnié dans le monde entier de la manière la plus terrible, et d'être présenté comme étant, le séducteur, qui a perdu son appel. Depuis quand Dieu se repent-il d'un appel? Cependant, je pense qu'il doit arriver maintenant, aux serviteurs, la même chose qui arriva à notre Seigneur autrefois. Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. Jean 7, 12. Quand un serviteur est traité comme le maître fut traité, il doit se contenter de cela, même s'il est appelé Béelzébuth, et que ses ennemis soient des gens de sa propre maison. Matthieu 10, 21 à 42. Tout ce que le Seigneur a dit doit s'accomplir. Comme cela fut le cas avec le Rédempteur, c'est ainsi que les apôtres et les prophètes furent aussi les cibles de Satan. Cela ne peut être différent maintenant. Et ceci veut dire que c'est un bon signe. Le Seigneur a dit la chose suivante à ceux qu'il a envoyés comme ses serviteurs. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Jean 15, 20. L'apôtre Paul aussi l'a expérimenté. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. 2 Corinthiens 6, 8. Dans 2 Corinthiens 11, Paul craignait que le serpent séduisît les croyants comme il le fit avec Ève. Même jusqu'aujourd'hui, certaines personnes écouteront les paroles d'une femme qui a été séduite par l'ennemi, et dont la bouche ne profère que des versions déformées de chaque écriture, et de chaque citation qu'elle prononce. 1 Timothée 2, 11 à 14. Tandis que les autres reconnaîtront que la parole de Dieu dans la bouche d'un serviteur de Dieu est la pure vérité. 1 Roi 17, 24. Je remets tout, à celui qui juge justement, et je n'ai qu'un seul désir, celui d'apporter le message divin du plein évangile jusqu'à mon dernier souffle. Ceci a été ma vie pour mon cher Seigneur durant les 60 années passées. Et elle le sera encore jusqu'à ce que l'Église épouse rencontre l'époux. En allemand, jusqu'à ce que l'assemblée fiancée, ou la future mariée, rencontre son fiancé, son futur époux. Comme je le vis en janvier 1981, lorsque je fus ravi en dehors de mon corps, et que j'expérimentais l'enlèvement, une grande multitude, ils étaient tous, jeunes, et habillés en blanc, sera enlevée. Cela aura valu la peine pour tous ceux qui n'étaient pas seulement connectés aux prophètes, mais qui sont connectés à Dieu pour toute l'éternité. Le but est proche. Maranatha. Nous sommes reconnaissants pour la parole prophétique qui brille comme une lampe dans un lieu obscur. 2 Pierre 1, 19. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure, toutefois les signes des temps parlent un langage clair. Que le Seigneur fidèle nous ouvre, à tous, l'entendement, et nous accorde pleinement sa grâce pour notre préparation au retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, 6. Les États-Unis d'Europe. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres, pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres, une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. 1 Pierre 4, 7 et 8. Depuis le 1er décembre 2009, le drapeau européen flotte dans tous les 27 États qui font maintenant partie de l'Union européenne. La papauté a interprété le symbole de la femme couronnée de 12 étoiles, dans Apocalypse 12, comme étant Marie. Et elle a consacré l'Europe unie au cœur immaculé de la reine de l'Europe, sous la domination catholique romaine. C'est la raison pour laquelle le drapeau européen a 12 étoiles. Nous sommes à la fin, du temps de la fin. Et nous sommes témoins de ce que la prophétie biblique a prédit en ce qui concerne le dernier empire mondial. Le premier président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, a été élu. Manifestement, l'Europe et les politiques du monde continuent à être dirigées par les jésuites, qui sont fidèles au pape. Le rôle de leader est joué par l'Antichrist, en tant que faux prophète jusqu'à la fin, lorsque cette écriture s'accomplira. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête, et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Apocalypse 19, 20. Pour le moment, s'accomplit ce qui suit. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira. Par le traité de paix avec Israël. Daniel 9, 27, les puissants, et le peuple des saints. Daniel 8, 24. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Daniel 2, 40. Ensuite je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait, et foulait aux pieds ce qui restait. Daniel 7, 19. Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Daniel 7, 23. Celui qui continue la lecture, remarquera qu'au temps où cela se passera, et c'est maintenant, le Dieu du ciel établira son royaume sur la terre. Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Daniel 7, 27. Oui, tout ce que le Seigneur a annoncé d'avance dans sa parole pour notre temps est en train de s'accomplir. Et nous sommes la génération qui expérimente cela. Nous qui sommes avancés en âge. Nous avons été témoins de la nuit de cristal, le 9 novembre 1939, quand toutes les synagogues furent brûlées dans le Deutsche Reich, ce qui marqua le début du terrible holocauste. Nous avons vu le rassemblement des 12 tribus d'Israël venant d'environ 150 pays, et la fondation de l'État d'Israël en 1948. Après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons vécu la division entre l'Est et l'Ouest, et la construction du mur de Berlin en août 1961. Et puis, nous avons vu la chute de ce mur le 9 novembre 1989. L'unification de l'Europe sur la base des traités de Rome de 1957, et l'application du traité de Lisbonne de septembre 2007, sont devenues des réalités. Maintenant, nous sommes témoins de l'appel pour une autorité mondiale, pour un gouvernement mondial. Les nations et les religions sont en train de s'unir sous Rome et la globalisation se poursuit. La communauté internationale dans son ensemble est dans le même bateau, que ce soit en ce qui concerne le changement climatique, les ressources naturelles, ou tout autre sujet. En effet, à tous les niveaux, il est principalement question de rapprochement, et de la paix mondiale tant attendue parmi toutes les nations. 1 Thessaloniciens 5, 3. Quand nous retournons dans le langage symbolique de la Bible, nous voyons l'Église apostate, en tant que la grande prostituée chevauchant la bête. La puissance spirituelle infidèle, tient les rênes entre ses mains, et dirige la puissance politique. Apocalypse 17. Tous les chemins mènent à Rome. Un seul en fait sortir. Nous n'avons plus besoin d'autres prédictions sur ce qui va se passer dans un futur proche. Nous avons la meilleure orientation dans la parole de la prophétie des saintes Écritures. Notre Seigneur a dit trois fois alors qu'il parlait du temps de la fin, « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » Matthieu 24, 33, Marc 13, 29, Luc 21, 31. Voyage missionnaire en 2009. À mon grand étonnement, le rapport d'Internet affiche que de janvier jusqu'en novembre 2009, j'ai effectué 88 vols seulement avec le groupe Star Alliance Lufthansa Suisse. Sans compter les vols avec les autres compagnies aériennes. Le Seigneur a permis qu'au cours de cette année, je puisse annoncer sa sainte et précieuse parole dans 21 pays. Pour 6 d'entre eux, ce fut ma première visite. Cette année fut l'une des plus bénies et cela apportera beaucoup de fruits pour l'éternité. Conclusion de l'année 2009 et regard dans l'année 2010. Bien-aimé Seigneur et Sauveur, souviens-toi de l'alliance que tu as faite avec nous. Souviens-toi du sang que tu as versé pour nous. Souviens-toi des promesses que tu nous as données. Souviens-toi de leur accomplissement afin de nous donner la vie. Nous sommes arrivés dans la période la plus importante de l'histoire de l'humanité, et de l'histoire du salut. Au prophète Daniel, il fut recommandé, « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. » Daniel 12, 4. Le temps de la fin est là, et le livre scellé a été ouvert. L'apôtre Jean en rendit témoignage, et nous le vivons. Heureux celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Apocalypse 1, 3. Ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Apocalypse 5, 5. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Apocalypse 22, 7. Et l'esprit et l'épouse disent. En allemand. Et l'esprit et la fiancée, la future mariée, disent, « Viens !» Et que celui qui entend dise, « Viens !» Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Apocalypse 22, 17. Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. » Amen. Viens, Seigneur Jésus. Apocalypse 22, 20. C'est Dieu qui l'a fait. Le Seigneur fidèle a conduit les choses de telle manière que nos réunions de chaque premier week-end du mois, qui se déroulent en allemand, soient traduites en 12 langues différentes, et soient transmises en direct par Internet, afin qu'elles puissent être suivies et entendues dans le monde entier. À chaque retransmission, nous enregistrons plus de 450 connexions venant de tous les continents. Si quelqu'un voudrait écouter en ligne, il peut accéder à notre site web, freievolksmission.de, sur Internet, en choisissant émission, puis sélectionner vidéo ou audio, et ensuite sélectionner la langue désirée. Au premier week-end du mois, la retransmission des réunions débute le samedi à 19h, et le dimanche matin à 9h30, GMT. À Krefeld, nous continuerons au rythme des premiers week-ends. Comme d'habitude, nous vous prions de nous faire toujours savoir d'avance votre venue lors de ces réunions, afin de pouvoir préparer au mieux l'hébergement et les repas. De tout mon cœur, je voudrais remercier chacun de vous, dans le monde entier, et ceux qui me portent, et portent ce ministère, dans leurs prières, et pour leur soutien continu. Pour l'année 2010, je vous souhaite toutes les bénédictions abondantes de la part de Dieu. Agissant de la part de Dieu. Frère Franck.